Vraiment, ces trois conférences auraient pu faire une conférence, parce que c'est vraiment le même sujet qui est développé. Les doutes. Vous savez, les doutes, ou le doute et la croyance sont deux choses très proches. Ce n'est pas des choses contradictoires. Ça paraît étrange, ça, mais on a vu ça hier. On a vu qu'en réalité, à la base du doute, on trouve la même chose qu'à la base de la foi. Le même processus, si vous voulez, la même démarche, qui est une démarche de croyance, de conviction. Et on a donné beaucoup d'exemples, et on va continuer dans ce sens un peu ce matin, pour montrer que, au fond, la personne qui doute, ou la personne qui nie, est une personne croyante et convaincue. Et nous avons montré pourquoi. Ce que je voudrais voir ce matin, c'est d'être un peu plus spécifique, un peu plus précis, et c'est de voir deux cas, ou plutôt deux domaines de foi, deux domaines de croyance, de conviction, qui produisent le doute, surtout bien sûr à l'égard de Dieu, à l'égard du christianisme, à l'égard de la vie chrétienne, à l'égard de Jésus, de tout ce que vous voulez qui est lié à la croyance chrétienne. Deux croyances fondamentales qui sont la base du doute. Quelles sont ces croyances fondamentales? Je les ai notées, il me semble que ce sont les plus importantes. La première que nous allons traiter, c'est qu'on ne peut pas baser sa vie sur quelque chose d'aussi ancien. C'est la première conviction, source de doute à l'égard du christianisme. C'est une fausse croyance. Et si on arrive à éliminer cette fausse croyance, ou du moins à la corriger, on va se rendre compte que la foi en Dieu et dans la Bible n'est pas aussi stupide qu'on croit. La deuxième fausse croyance qui donne une doute ou qui produit le doute à l'égard du christianisme, c'est de dire que le christianisme, c'est quelque chose qui n'est pas adapté à la vie, aux réalités actuelles, ou que les chrétiens sont des gens marginaux. Encore une fois, c'est une fausse croyance, c'est une fausse conviction. Mais j'aimerais un peu revenir à ce que j'ai dit hier, pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai dit que tout homme, au départ, fonde sa vie, sa pensée, sur une conviction. Même l'homme qui doute. On n'est pas né en doutant. Quand on avait un an, quand on était petit, quand on avait deux ans, on n'avait pas de doute. On n'est pas non plus de croyance. Cela nous a été inculqué. Et nous sommes créés de la sorte que ce que nous croyons est ce sur quoi nous agissons au départ doit nous être communiqué. Une grande partie de nos actions, c'est comme ça, on peut le nier si on veut, mais c'est comme ça, c'est un fait, une grande partie de nos actions est déterminée par des choses que d'autres gens nous ont dit, ou omis de nous dire, parfois. C'est possible aussi. Mais à la base, on a la communication qui est fondamentale pour l'homme. Et la croyance. Et j'ai dit que, logiquement et rationnellement, un homme ne doit jamais dire, un homme ne peut jamais dire, je doute de l'existence de Dieu. Il ne peut pas dire ça. Et il ne peut pas dire, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Rationnellement, il doit dire, je crois que Dieu n'existe pas. C'est ça sa position réelle. Il ne peut pas dire, je doute ou je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il doit dire, je crois ou je suis convaincu que Jésus était simplement un homme comme les autres. Ça, c'est différent. Et c'est ça vraiment sa position. Il ne doit pas dire, je doute que la vie chrétienne est vraiment une vie qui vaut la peine d'être vécue. Sa vraie position, c'est plutôt, je crois que la vie chrétienne ne vaut pas la peine d'être vécue et qu'une autre vie vaut mieux. Je crois qu'il vaut mieux vivre comme un non-chrétien. C'est ça, sa vraie position. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas comme ça, celui qui doute? J'ai cherché la réponse dans les livres, mais aussi dans les discussions, dans les contacts que j'ai pu avoir avec beaucoup de personnes qui doutent. J'ai beaucoup de contacts avec des personnes qui doutent, certainement plus qu'avec des personnes qui croient. Et je crois que je comprends la raison. C'est parce que si réellement il montrait sa position, il n'en est pas toujours conscient. Mais si réellement il montrait sa position, s'il disait « je crois ou je suis convaincu que Dieu n'existe pas », il se mettrait dans une position difficile. S'il disait « je crois, je suis convaincu que Jésus n'était qu'un homme comme les autres », il se mettrait dans une position difficile. Parce qu'à ce moment-là, on devrait lui demander « alors, donne-moi les raisons pourquoi tu crois ». Des raisons objectives, des raisons historiques, ou toute autre raison psychologique, pourquoi tu crois que Jésus était un homme comme les autres. Et il n'aurait aucun argument. Il est toujours plus facile de nier quelque chose déjà établi ou déjà affirmé que d'affirmer positivement quelque chose. En réalité, s'il voulait vraiment affirmer « je crois que Dieu n'existait pas », il ne pourrait même pas le faire, car pour faire une chose pareille, il aurait fallu qu'il aille dans l'univers pour voir si Dieu n'est pas quelque part caché. Il ne peut jamais affirmer une telle chose. Vous savez, quand Gagarine, le premier cosmonaute à avoir été dans l'espace, est revenu, vous savez ce qu'on lui a demandé? Ses impressions. Il faut dire que ça doit être impressionnant d'aller dans l'espace. J'ai jamais été. Ça doit être quelque chose. Demandez, monsieur Gagarine, dites-moi vos impressions. Alors Gagarine a réfléchi, puis il a dit, ben, je ne sais pas si on lui avait dit de dire ça, ça avait l'air d'être un truc appris par cœur. Enfin bon, il a dit, eh ben vraiment, maintenant, je suis convaincu qu'il n'y a pas de Dieu. Ah, des journalistes, pourquoi, monsieur Gagarine, vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de Dieu? Parce qu'il n'était pas là-haut. Je l'ai pas vu. Ouais. Si j'avais été journaliste, j'aurais dit, mais monsieur Gagarine, vous n'avez pas été bien loin pour dire ça. Qu'est-ce que c'est que d'aller à 50 000 km dans l'espace, quand on n'est même pas capable d'aller sur Mars, et encore en dehors du système solaire. Affirmer que Dieu n'existe pas parce qu'on est allé à 50 km dans l'espace, quand on voit la taille, la dimension des galaxies, c'est quelque chose d'aberrant. Et ça revient à ce que je disais hier. On fonde nos convictions sur nous-mêmes, sur nos raisonnements, sur notre appréhension de la réalité qui est tellement limitée. Parce que vous voyez, on est en train de parler de quelque chose qui est transcendant, qui est universel, qui est gigantesque, Dieu, l'au-delà, la vie, la mort, pourquoi je suis là, où je vais, et on est en train d'affirmer les choses par rapport à ces réalités-là, on est en train d'affirmer les choses par rapport à nous-mêmes. On dit, mais d'après mon expérience, ma petite expérience de bonhomme qui a vécu 30 ans sur cette terre, qui n'a pratiquement jamais vu autre chose que mon petit patelin ou mon petit pays, moi j'affirme, moi petit bonhomme, avec mon expérience, mon raisonnement, et mes raisonnements, qu'il n'y a pas de Dieu. Complètement aberrant. Et c'est pourtant ce qu'on fait. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier, je voulais y revenir. En théorie, on pense, et nous, en tant que chrétiens, on doit réfléchir à ça, en théorie, on pense que c'est le chrétien qui doit donner des raisons de ses croyances. Parce qu'on pense que c'est que le chrétien qui croit. Et parce qu'on n'a pas encore compris que tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui vivent aujourd'hui autour de nous, sont des gens qui croient à quelque chose. Même celui qui doute, il fonde ses doutes sur des convictions. Alors de temps en temps, il est bon de retourner à la question et de dire, mais sur quoi tu fondes tes doutes? Quelles sont les choses qui te convainquent que tu dois vivre comme ci ou comme ça? C'est vrai que le chrétien doit le faire lui aussi, car il nous est dit dans 1 Pierre 3, verset 15, si quelqu'un vous demande raison, c'est intéressant le mot raison ici, de votre espérance, soyez toujours prêt à lui donner une réponse. Je crois des fois, le non-chrétien, le non-croyant qui s'oppose au christianisme, aussi il faut lui demander des raisons de ses convictions. Ça entraînerait des discussions intéressantes. Dans bien des domaines, j'ai remarqué, par exemple, il m'est arrivé de faire des conférences sur le sujet de la création, de l'évolution, de la science, et souvent on m'a dit, souvent, dans les conférences, moi je ne crois pas que Dieu a été créé à l'homme, a été créé par Dieu à l'origine. L'homme n'a pas été créé à l'origine. Alors plutôt, il faudrait dire, je dirais à cette personne, je ne sais pas si je comprends bien ce que vous voulez dire, mais je crois que ce que vous voulez dire, et je crois que ce que vous croyez, vous, parce que vous croyez quelque chose, c'est que vous croyez que l'homme est descendu d'un singe qui, lui, a évolué d'un primate, lequel est sorti d'êtres vivants qui ont développé dans le monde aquatique, êtres vivants qui ont développé dans le monde aquatique par hasard sous des milliards d'années. C'est cela que vous croyez? Finalement, il dit oui. Donc c'est une croyance que vous avez. Alors maintenant, dites-moi sur quel fait vous établissez cette croyance. En 1984, Robert Jastrow, maître de recherche sur les explorations spatiales à la NASA, a écrit un livre qui a fait grand bruit aux États-Unis qui s'appelle Until the Sun Dies, jusqu'à ce que le soleil meure. On n'en a pas parlé en France, malheureusement. Il mériterait d'être traduit, ce livre. Et j'ai fait un petit article dans Horizon Chrétien, c'est pas la publicité, hein, dans Horizon Chrétien au mois de février, sur ce livre. Et je vais essayer de retrouver quelque chose qu'il a dit et que j'ai trouvé intéressant. Pour un homme qui n'est pas croyant, je dis, il n'est pas croyant, c'est un agnostique, typique d'un homme qui doute. Et il dit ceci, concernant ce problème de la création, de l'origine du monde et de la vie. La science ne peut pas exclure la possibilité d'une cause miraculeuse en relation avec l'origine de l'univers et de la vie. La science n'a jamais pu exclure une telle possibilité. Toutes les conceptions actuelles, dit Jastrow, en rapport avec l'origine de notre univers, demeurent des hypothèses et constituent, de la part de ceux qui les adoptent, un acte de foi. Mon beau-frère à Montpellier, qui fait son doctorat en géologie, posait quelques questions sur ce qu'il croit être l'origine des roches sédimentaires ou autres. Et finalement, il admet que oui, il y a une part de foi dans notre démarche. La science n'existerait pas, vous savez, sans la foi. Tout scientifique est quelqu'un qui a mis sa confiance dans une hypothèse et qui après a fait une démarche pour vérifier cette hypothèse. La foi est nécessaire pour la science. Elle est indispensable à la science, la foi. Donc c'est un acte de foi semblable à ceux qui font remonter l'origine de toute chose à un créateur. Les deux sont dans une position de foi. Alors si on ne croit pas Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est parce qu'on croit autre chose. Au commencement, par hasard, l'univers s'est mis à surgir, il y a eu le Big Bang, et la vie a développé après 3 milliards d'années. C'est une position de foi, une conviction. Pareil. Vous savez, c'est intéressant que quand Jacques, l'apôtre Jacques, dans son épître, au premier chapitre, parle du doute, plutôt, il définit l'homme qui doute comme l'homme qui est changeant, qui sans arrêt bouge d'un côté et de l'autre, comme les vagues de la mer. Dès qu'il y a le vent qui souffle de l'autre côté, hop, il souffle avec le vent. C'est l'homme qui doute. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si dans le fond, le doute c'est une croyance, mais si cette croyance elle est fondée réellement sur nous-mêmes, c'est pas étonnant. Car nous sommes les êtres changeants. Sans stabilité, sans solidité, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, à nos propres impressions, à nos propres raisonnements. Et si on regarde, même dans cette question scientifique, les convictions qui ont été et celles qui sont aujourd'hui, on voit à quel point ça a changé. En 1856, on trouve, en France et ailleurs, quelques morceaux de fémur et de mâchoire. Et on appelle cet homme l'homme de Néandertal. Le premier homo sapiens, qu'on peut considérer vraiment comme un homme, serait apparu il y a 35 000 ans. Cette année, Newsweek, l'hebdomadaire américain, a consacré plusieurs articles à l'homme de Néandertal. Il a de la chance, lui. Hein. Moi, je n'ai pas droit à ça. On a trouvé que deux morceaux de mâchoire et un morceau de fémur, il a droit à trois articles. Moi, je n'ai rien eu. On a consacré trois articles à l'homme de Néandertal pour dire, finalement, que l'homme de Néandertal était un homme intelligent, cultivé et un artiste. On a fait du progrès. L'homme de Néandertal. En quelques années, il a bien évolué. Donc, si on examine les croyances humaines sur lesquelles sont fondés tous les doutes de l'homme, on se rend compte de ce caractère changeant, de ce côté changeant. C'est intéressant parce que la Bible, elle, ne change pas. Et le comportement de celui qui se fonde sur l'enseignement de Jésus est le même en 1985 que celui qui se fondait sur l'enseignement de Jésus en l'an 30. Il n'y a pas de différence. C'est exactement le même comportement. Et ça doit être le même comportement. Et quand il y a changement continuel, quand les gens sont poussés d'un côté et de l'autre, surtout en matière de religion, c'est qu'on se fonde sur des convictions pas solides. Des convictions fondées sur les hommes, sur leurs impressions, sur leurs raisonnements, sur leurs expériences, sur leurs traditions. Pas sur ce que Jésus a dit. Ça, c'est autre chose. Et là, nous sommes en plein dans le doute. Alors je reviens au sujet, on n'en a que pour 3 heures, mais je reviens au sujet, vraiment. Mais quand même, Au mois de juin 1984, le Muséum d'histoire naturelle de New York a fait une exposition unique et qui, je pense, restera unique dans l'histoire de la science. Cette exposition est organisée par des anthropologues, des ethnologues. On a rassemblé là, pour la première fois, pratiquement tous les fossiles humains qui existent. Lucie, le Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, ils étaient tous là. Tous. Extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce que, quand on dit la religion chrétienne n'est pas valable parce qu'elle est basée sur quelque chose d'ancien, de trop ancien, c'est un faux raisonnement. Quand des hommes de science dépensent 1 million de francs nouveaux pour rassembler quelque part des morceaux d'os qui ont 2 ou 3 millions d'années ou quelques milliers d'années, c'est que le passé est important, je suppose, quand même. Et les mêmes personnes qui nous disent, j'ai remarqué, les mêmes personnes qui nous disent, mais Jésus, ça fait 2000 ans. Pourquoi ne parler de ce Jésus qui a vécu il y a 2000 ans? Parlons des réalités actuelles. Ces mêmes personnes s'intéressent comment le monde est apparu il y a 3 milliards d'années par un Big Bang. C'est curieux ça quand même. C'est contradictoire. Ou le passé est important, il est intéressant de le connaître, ou il n'est pas important. Mais il ne faut pas comme ça faire un tri. Et qu'est-ce que c'est que 2000 ans? Si l'univers a 3 milliards d'années. C'est hier. Ça ne me gêne pas que l'univers a 3 milliards d'années. Mais ça prouve encore plus que ça ne fait pas très longtemps que Jésus était là. Vous savez combien de générations ça fait? Vous avez fait le compte? 45? 50 générations? Qu'est-ce que c'est 45 générations? Moi, je suis déjà presque grand-père. C'est vrai. C'est drôle comme les gens réagissent. Oh, c'est trop ancien tout ça. J'ai une bibliothèque chez moi, à peu près 2000 livres, beaucoup de livres d'histoire. J'aime bien l'histoire. Un jour, quelqu'un qui vient chez moi et qui regarde la bibliothèque, et puis il me dit, mais ça ne te sert à rien, ces bibliothèques. Je dis, il va tout brûler, attention. Il dit, mais ça ne sert à rien, tous ces livres. Il dit, mais pourquoi? Ben, moi, chez moi, j'ai que des livres récents. J'ai tous les derniers bouquins qui sont sortis. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de livres récents chez moi. Je dis, ben, pourquoi? Parce que les livres anciens sont moins utiles que les livres récents. Les livres récents sont forcément plus vrais, et plus utiles, parce qu'ils sont récents. Ça, c'est une idée qu'on nous a mis dans la tête, peut-être pour vendre les bouquins, je ne sais pas. Mais c'est absurde. Toutes les idées que vous trouvez dans les livres nouveaux, vous les trouvez écrites déjà il y a 3000 ans. Ça vous étonne, ça? Mais c'est vrai. C'est extraordinaire. Alors, revenir à cette idée que la Bible est un livre périmé et la religion chrétienne est quelque chose de périmé parce que c'est trop ancien, je vais poser la question, à quel aspect, de quel point de vue est-ce que c'est périmé? La Bible, par exemple, ou la religion chrétienne, ou l'enseignement de Jésus. Alors, il y a plusieurs aspects, je pense, qui trottent dans l'esprit des gens. Toujours, on en est aux fausses croyances qui sont le fondement des doutes ici. Première chose qui vient souvent à l'esprit, et surtout des jeunes, je crois, c'est que la religion chrétienne est périmée, et la Bible est périmée, à cause de la science. La science a montré et a démontré que certains aspects de la révélation divine, de la religion chrétienne, sont périmés. Par exemple, on ne peut plus accepter aujourd'hui la notion des miracles. À cette époque-là, en Palestine, et dans ce monde-là, tout le monde était prêt à avaler les miracles. Eh bien, c'est que vous n'avez pas étudié la philosophie de ces temps-là, si vous croyez ça. Vous ne savez pas ce que c'est que le stoïcisme grec, que eux, ils s'amusent à se pincer les uns les autres, à savoir s'ils sentaient quelque chose. Ils n'étaient pas prêts à avaler n'importe quoi. Ils étaient des gens qui doutaient jusqu'au bout. Ils doutaient même d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils existaient? Ils se posaient la question de savoir s'ils existaient. Ils se donnaient des coups pour savoir s'ils sentaient. Ce n'est pas les gens qui étaient prêts à avaler les miracles. Et n'oubliez pas que la Palestine était un pays hellénisé depuis 3 siècles. Il y avait en Palestine les Sadducéens. Et vous savez que les Sadducéens ne croyaient même pas à l'au-delà, ils ne croyaient même pas aux esprits, ils ne croyaient pas à la résurrection, ils ne croyaient plus à rien. À cause de la philosophie grecque du scepticisme. Ce n'est pas des gens prêts à avaler les miracles. Ce n'est pas vrai. Luc, l'auteur d'un des évangiles, était d'origine grecque. Un médecin par-dessus le marché. Il nous écrit en Luc chapitre 4, verset 40, « Et là, Jésus fit beaucoup de miracles et de guérisons. » Alors, on peut se dire, ça, c'est un médecin d'opérette, comme vous savez, dans le Madame imaginaire de Molière. Vraiment des rigolos, ces médecins-là. Hein. Ben, savez-vous que les médecins, à l'époque de Molière, étaient des rigolos, mais pas les médecins au temps de Jésus, formés dans l'école de médecine d'Hippocrate. Ce n'étaient pas des blagueurs. Et ce n'était pas des ignorants non plus. Luc n'était pas un ignorant. Et ce n'était pas un médecin d'opérette. On a fait beaucoup de recherches dans le domaine de la nutrition depuis quelques années. Et j'ai lu pas mal dans ce domaine. Et on se rend compte que les Grecs, et même Hippocrate déjà, montraient l'importance de la nourriture et de la nutrition dans la santé. Ça fait déjà 2500 ans. C'est pas nouveau. Les Égyptiens, 3000 ans avant Jésus-Christ, pratiquaient les trépanations, les opérations chirurgicales sur le cerveau. Et ils pouvaient construire des pyramides avec des formules mathématiques qu'on ne pourrait plus aujourd'hui. On ne saurait plus le faire. Donc, il ne faut pas penser que les gens qui vivaient il y a 3000 ans étaient des imbéciles. Automatiquement. Parce qu'ils vivaient il y a 3000 ans. Souvent, dans certains domaines, ils étaient plus intelligents que nous. Ça, c'est quelque chose que l'on découvre actuellement, je crois. En ce qui concerne ce doute par rapport à la science, on peut dire une chose. La science, comme le dit Jastrow, ni ne nie, ne dément, ni n'affirme en ce qui concerne les miracles. Il n'y a aucune expérience scientifique qui ait été faite et qui démontre que les miracles ne sont pas possibles. S'il y en a une, dites-moi laquelle. Il n'y en a pas. Deuxième chose, c'est que l'aspect social ou l'aspect politique de l'enseignement de Jésus est périmé. Ça, c'est un autre aspect qui vient à l'esprit des gens à l'heure actuelle. Quand Jésus dit dans Luc 6, verset 27, « Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maudissent. » On dit, ça c'est l'enseignement qui était valable à cette époque-là, mais aujourd'hui c'est périmé. Quand on voit les injustices, quand on voit comment les gens sont exploités, on ne peut plus avoir une croyance comme ça. On doit l'éliminer. Dans un ouvrage de formation théologique écrit par un père dominicain, j'ai lu ceci. Dans notre monde moderne d'injustice sociale, l'idée d'aimer ses ennemis est absurde et périmée. C'est un prêtre qui dit ça. Pourquoi ? Est-ce que vous croyez qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas des injustices sociales ? Il y en avait. Est-ce que vous croyez qu'il y avait des gens qui ne souffraient pas ? Est-ce qu'il n'y avait pas des esclaves ? Et c'est dans ce monde-là que Jésus a dit ces choses. Alors, il y a un problème quand même là. Le monde n'a pas changé dans ce sens. Et si on analyse la croyance des zélotes, c'est-à-dire des révolutionnaires juifs de l'époque de Jésus, on voit qu'ils avaient exactement les mêmes arguments. Il suffit de lire Favius Joseph, la guerre des juifs contre les romains. Ils avaient les mêmes arguments qu'aujourd'hui les indépendantistes de ci ou de là, les révolutionnaires. Les mêmes argumentations et les mêmes réactions. Exactement la même chose, il y a 2000 ans. Et dans ce contexte, Jésus a dit, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous persécutent. Dans ce contexte-là. Donc rien n'a changé. Jésus vivait dans un pays colonisé. Un autre aspect qui vient à l'esprit des gens, c'est que le christianisme est périmée, ou la Bible est périmée, parce que, à cause de son aspect moral. L'aspect moral est périmé. On ne peut plus accepter et vivre certains commandements de la Bible, tels que celui-ci, Luc 16, verset 18, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » Ça va encore plus loin. Ce genre de choses, c'est plus possible dans le monde actuel. On ne peut pas vivre fidèle à sa femme, vraiment, comme Jésus le demande, comme l'Évangile le demande en 1985. Et la pureté sexuelle, pour les jeunes, même, avant même le mariage, quelque chose qu'on ne peut plus demander, donc périmé. Alors je pose la question, vous croyez, ça c'est votre conviction. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Vous croyez que de vivre la vie sexuelle n'importe comment, comme ça vous plaît, quelles que soient les conséquences, c'est bien pour vous et pour les autres, ça c'est votre conviction, montrez-moi en quoi cette façon de vivre a apporté réellement plus d'équilibre, de bonheur, de stabilité dans votre vie, dans la vie des gens autour de vous. Et vous verrez que c'est le contraire. Le résultat contraire. Alors, où est-ce qu'il s'est périmé? C'est pas périmé, c'est plutôt très actuel. Et a toujours été très actuel ce problème-là. Maintenant, là où des gens restent dans les normes que Dieu a données en ce qui concerne les questions morales, en ce qui concerne même la violence et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'on trouve? Des vies équilibrées, la tranquillité, la non-violence. Et là où on fait ce qui plaît, ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire parce que ça nous fait plaisir, on trouve autre chose, pas si agréable. Donc non seulement c'est pas périmé, c'est très actuel. Ça résoudrait bien des problèmes. Donc ceux qui pensent, ou ceux qui croient plutôt, qui sont convaincus que Jésus n'a pas fait les miracles, par exemple, ou n'a pas pu faire des miracles, ou que son enseignement est inapplicable aujourd'hui, je dis qu'ils n'ont rien sur lequel ils puissent fonder leur foi. Je ne parle plus de doute, parce que comme j'ai dit, le doute, le fond, ou la source, ou la cause de doute, c'est une conviction. Et si vous avez des doutes aujourd'hui, quant à Jésus, quant à l'Évangile, quant à la religion chrétienne, même telle que nous essayons de la vivre, quant à tout ça, c'est parce que vous avez dans votre esprit des convictions sur lesquelles vous vous fondez, mais des fausses convictions et des fausses croyances. On a pas mal de temps ce matin. Je ne sais pas à quelle heure ça commence. À 11h. Alors, en fait, je suis un peu en avance sur mon horaire. Je ne sais pas si c'est moi qui a parlé trop vite ou si c'est vous qui avez écouté trop vite. Mais j'ai fini. Et je suis embêté. Mais ce qu'on verra à 11h, c'est la deuxième conception qui est que le christianisme est quelque chose de marginal. Les gens ne sont pas dans le coup, les chrétiens ne sont pas dans le coup. Je montrerai que c'est le contraire. C'est le chrétien qui est dans le coup et c'est les autres qui ne sont pas dans la réalité. C'est ça que je voudrais montrer. Alors ça sera pour 11h, mais en attendant 11h, on va entendre Max. J'ai pensé que peut-être on peut... Tu peux présenter... J'ai pensé que ça serait une occasion...